Chapitre 17. 12 heures plus tôt, le colonel Fedman Kassad avait grimpé l'escalier spiralé, émergeant au plus haut niveau qui restait du monolithe de cristal. Les flammes montaient de tous les côtés. À travers les brèches de la paroi de cristal, il voyait les ténèbres extérieures. Le vent faisait entrer une poussière vermillon par les ouvertures, et l'air était saturé d'une poudre qui ressemblait à du sang. Il mit son casque. À 10 pas devant lui, Moneta attendait. Elle était nue sous sa combinaison à énergie, et cela donnait l'impression qu'elle avait du vif argent sur la peau. Kassad vit les flammes qui se reflétaient sur les courbes de ses seins et de ses cuisses. Les creux de sa gorge et de son nombril étaient luisants. Elle avait un long cou et un visage de chrome aux traits parfaitement lisses. Dans ses yeux se profilait le double reflet de la haute silhouette qui était celle de Fedman Kassad. Il leva le canon de son fusil d'assaut et enclencha manuellement le sélecteur sur la puissance de feu maximale. Dans son armure d'impact activée, tout son corps se crispa avant l'attaque. Moneta fit un geste de la main et sa combinaison se désactiva du sommet de la tête aux épaules. Elle était maintenant vulnérable. Kassad avait l'impression de connaître chaque millimètre carré de son visage, chaque pore et chaque follicule. Ses cheveux bruns étaient coupés courts, retombant légèrement sur le côté gauche. Ses yeux n'avaient pas changé. Ils étaient larges, d'un vert profond, et avaient l'air étonné et curieux. Sa petite bouche aux lèvres pleines hésitait au bord d'un sourire. Il remarqua les sourcils levés d'un air légèrement inquisiteur, les petites oreilles qu'il avait tant embrassées et qui avaient si souvent reçu ses confidences chuchotées, la gorge tendre où il avait collé sa joue pour écouter ses pulsations. Il braqua le fusil sur elle.
« Qui êtes-vous ? »
demanda-t-elle. Elle avait la même voix douce et sensuelle que dans son souvenir, le même accent difficile à définir. Le doigt sur la détente, Kassad hésita. Ils avaient fait l'amour des dizaines de fois. Ils s'étaient rencontrés dans ses rêves et dans les simulations militaires. Mais s'il était vrai qu'elle parcourait le temps à reculons,
« Je sais »,
dit-elle d'une voix douce, apparemment inconsciente de la pression qu'il avait déjà commencé à exercer sur la détente.
« Vous êtes celui que le Seigneur de la douleur a annoncé. »
Kassad dut lutter pour respirer. Quand il parla, sa voix était rauque et tendue.
« Tu ne te souviens pas de moi ?»«
Non ?»
dit-elle en penchant la tête pour le regarder d'un air légèrement perplexe.
« Mais le Seigneur de la douleur a annoncé un guerrier. Notre destin était de nous rencontrer. »
« Il y a longtemps que nous nous sommes rencontrés. »
réussit à murmurer Kassad. Le fusil viserait automatiquement la tête, changeant de longueur d'onde et de fréquence à chaque microseconde jusqu'à ce que les défenses de la combinaison à énergie soient vaincues. Outre le clap et les rayons laser, les fléchettes et les pulsants entreraient en action presque simultanément.
« Je ne me rappelle pas ce qui s'est passé il y a longtemps, »
dit-elle.
« Nous suivons le cours du temps dans des directions opposées. Sous quel nom me connais-tu dans mon avenir ? Ton passé ?»«
Moneta. »
halta Kassad, bandant sa volonté pour obliger son doigt à presser la détente. Elle sourit, hochant la tête.
« Moneta, l'enfant de la mémoire. Quelle ironie !»
Kassad se rappela sa trahison, sa métamorphose pendant qu'il faisait l'amour pour la dernière fois dans les sables environnant la cité des poètes. Ou bien elle s'était transformée en Gritch, ou bien elle avait laissé celui-ci prendre sa place. L'acte d'amour s'était transformé en monstrueuse obscénité. Le colonel Kassad pressa la détente. Moneta battit des paupières.
« Ça ne marche pas ici. Pas à l'intérieur du monolithe de cristal. Pourquoi veux-tu me tuer ?»
Kassad laissa échapper un grognement, jeta à terre son arme inutile, envoya toute la puissance à ses gantelets, puis chargea. Moneta ne fit aucun mouvement pour lui échapper. Elle le regarda charger sur une distance de 10 pas, tête baissée, son armure d'impact gémissant tandis qu'elle modifiait l'alignement cristallin de ses polymères, et Kassad hurlait. Elle abaissa légèrement les bras pour amortir l'impact. La vitesse et la masse de Cassade eurent pour effet de déséquilibrer Moneta et ils roulèrent tous les deux à terre. Cassade essaya de lui en serrer la gorge de son gantelet. Elle lui saisit les poignets comme un étau tandis qu'il roulait vers le bord de la plateforme. Cassade se retrouva sur elle. Il essayait de tirer parti de son poids, les bras tendus, les gantelets rigides, les doigts incurvés dans leur étreinte mortelle. Sa jambe gauche pendait au-dessus du vide. Le sol était 60 mètres plus bas.
« Pourquoi cherches-tu à me tuer ?»
répéta Moneta dans un souffle. Elle le fit soudain rouler vers le bord de la plateforme et ils tombèrent tous les deux, enlacés. Cassade hurla. Il rabattit sa visière d'un brusque mouvement de tête. Ils tourbillonnèrent dans le vide, leurs jambes emmêlées dans une prise en ciseaux, les mains de Cassade dans l'étau des poignets de Moneta. Le temps avait ralenti. Il sentait le frottement de l'air sur sa joue comme une couverture que l'on fait glisser doucement. Puis le mouvement s'accéléra, leur chute redevint normale. Il ne restait plus que 10 mètres. Cassade hurla et visualisa le symbole qui rigidifiait son armure d'impact. Il y eut un terrible choc. Il lutta à travers une brume rouge pour faire surface, sachant qu'une seconde à peine avait dû s'écouler depuis qu'ils avaient touché le sol. Il se remit debout en chancelant. Moneta se redressait également sur un genou. Il vit que plusieurs dalles de céramique avaient été brisées par leur chute. Il activa les servomécanismes des jambes de son armure et lança violemment son pied vers la tête de Moneta. Elle évita le coup, lui saisit la jambe, la tordit et le projeta avec violence, 3 mètres plus loin, vers la paroi de cristal qui vola en éclats. Il se retrouva à l'extérieur, dans la nuit, sur le sable. Moneta porta la main à son cou. Son visage redevint comme du vif argent. Elle sortit par le même chemin. Cassade releva sa visière cassée et ôta son casque. Le vent ébouriffa ses cheveux noirs, le sable lui piqua la joue. Il se mit à genoux, puis debout. Sur son col, les indicateurs de son armure étaient au rouge. Les dernières réserves d'énergie s'épuisaient. Il ignora les avertissements. Il n'avait besoin que de quelques secondes. Ce serait suffisant.
« J'ignore ce qui s'est passé dans mon avenir et ton passé, »
lui dit Moneta en s'approchant.
« Mais ce n'est pas moi qui me suis transformé. Je ne suis pas le seigneur de la douleur. Il... »
Cassade franchit d'un bond la courte distance qui les séparait maintenant. Il retomba derrière Moneta et fit parcourir à son gantelet droit un arc de cercle supersonique, le tranchant de la main rendu rigide par les filaments piézoélectriques au carbone-carbone. Moneta ne fit rien pour parer ou éviter l'attaque. Le gantelet l'atteignit à la base du cou avec une force capable de sectionner un tronc ou de creuser un sillon de 50 cm dans de la pierre. Sur Brescia, lors d'un corps à corps dans la capitale de Buckminster, il avait ainsi tué un colonel extro avec une telle force et une telle rapidité, le gantelet tranchant d'un seul mouvement dans l'armure d'impact le casque, le champ de force personnel, la chair et l'os, que la tête de l'homme avait battu des paupières durant 20 bonnes secondes en regardant son propre corps avant que la mort l'emporte. Le coup avait été porté avec précision, mais fut arrêté par la surface de vif argent. Moneta n'eut aucune réaction. Pas le moindre mouvement de recul. Cassade sentit son armure défaillir au moment où son bras devenait gourd et où les muscles de ses épaules se déchiraient de douleur. Il fit un pas chancelant en arrière, le bras droit pendant inerte, l'armure se vidant de son énergie comme une blessure perdant du sang.
« Tu ne m'écoutes pas !»
lui dit Moneta. Elle fit un pas en avant, saisit Cassade par le devant de l'armure de combat et le projeta 20 mètres en arrière dans la direction du tombeau de Jade. Il retomba lourdement, son armure d'impact épuisée n'absorbant qu'une partie du choc. Son bras gauche avait protégé son visage et son cou, mais l'armure s'était rigidifiée et le bras était maintenant grotesquement déformé sous lui. Moneta accomplit un bond de 20 mètres pour le rejoindre, s'accroupit à côté de lui, le souleva d'une main, saisit un pan de l'armure de l'autre et la déchira, mettant à l'air 200 couches de microfilaments et de polymères oméga. Elle lui donna quelques claques légères, presque nonchalantes. Sa tête bascula et il faillit perdre connaissance. Le vent et le sable crépitaient sur la peau nue de son torse et de son ventre. Moneta arracha le reste de l'armure, déchirant les biocapteurs et les rétroprocesseurs. Elle le souleva, nu, par les épaules. et le secoua. Kassad sentit le goût du sang dans sa bouche et vit des taches rouges flotter dans son champ de vision.
« Nous n'étions pas obligés d'être ennemis, »
murmura-t-elle. « Tu m'as tiré dessus. »
« Pour tester tes réactions, pas pour te tuer. »
Ses lèvres remuaient normalement derrière la pellicule de vif-argent. Elle le gifla de nouveau, et il fit un bond de 2 mètres pour retomber sur le versant d'une dune où il roula dans le sable froid. L'air était rempli d'un million de particules de neige, de sable et de poussière irisée par la lumière solaire. Kassad roula sur le côté, réussit à se mettre à genoux et s'agrippa au sable de la dune avec des doigts qui n'étaient plus que des griffes mortes.
« Kassad !»
murmura Moneta. Il se laissa rouler sur le dos et attendit. Elle avait désactivé sa combinaison à énergie. Sa peau semblait chaude et vulnérable, d'une pâleur presque translucide. De fines vénules bleues étaient visibles dans la partie supérieure de ses seins parfaits. Ses jambes avaient un galbe musclé. Ses cuisses étaient légèrement écartées à l'endroit où elle faisait jonction avec le reste de son corps. Ses yeux étaient d'un vert profond.
« Tu aimes la guerre, Kassad ?»
murmura-t-elle en se penchant sur lui. Il lutta pour se dégager, leva le bras pour la frapper. Elle lui cloua les 2 poignets d'une seule main au-dessus de sa tête. Une chaleur irradiait de son corps tandis qu'elle frottait, à plusieurs reprises, ses seins contre son torse et se glissait entre ses jambes écartées. Il sentit la courbe de son ventre contre son abdomen. Il se rendit compte que c'était un viol et qu'il pouvait résister simplement en ne réagissant pas, en la refusant. Mais cela ne marcha pas. L'air semblait liquide autour d'eux. La tempête de sable était lointaine. Les particules en suspension dans l'air formaient un rideau de dentelle porté par une brise régulière. Moneta commença à remuer les hanches au-dessus de lui, contre lui. Il sentit le surgissement implacable de son propre émoi, voulut lutter contre lui, contre elle, en essayant de libérer ses bras. Mais elle était beaucoup plus forte que lui. Du genou droit, elle l'obligea à écarter les jambes. Les pointes de ses seins frottèrent sa poitrine comme des cailloux brûlants. La chaleur de son ventre et de son sexe le fit réagir comme une fleur qui se tend vers la lumière.
« Non !»
hurla-t-il. Mais son cri fut étouffé par la bouche de Moneta qui se colla contre la sienne, tandis qu'elle continuait de lui maintenir les poignets d'une main et que, de l'autre, elle le saisissait pour le guider. Kassad lui mordit la lèvre tandis qu'une intense chaleur l'enveloppait. Plus il se débattait, plus il se rapprochait d'elle et la pénétrait. Il essaya de relâcher tous ses muscles, mais elle se fit plus lourde, jusqu'à ce qu'il soit plaqué contre le sable. Il se souvint des autres fois où ils avaient fait l'amour, trouvant l'un dans l'autre un îlot d'équilibre et de santé mentale au milieu de la guerre qui faisait rage. Kassad ferma les yeux, rejeta la nuque en arrière pour essayer de retarder l'explosion douloureuse de plaisir qui allait l'engloutir, comme une énorme vague. Il sentit le goût du sang sur ses lèvres. Il ignorait si c'était le sien ou celui de Moneta. 1 minute plus tard, tandis qu'il remuait encore à l'unisson, Kassad s'aperçut qu'elle lui avait lâché les poignets. Sans hésiter, il l'entoura de ses 2 bras, les mains à plat sur son dos, et l'attira violemment contre lui. Puis sa main monta jusqu'à la nuque de Moneta, sur laquelle elle se referma doucement. Le vent recommença à souffler, les bruits revinrent, le sable vola en tourbillon sur le versant de la dune. Kassad et Moneta se laissèrent glisser sur la pente, dans un creux de chaleur où ils étaient à l'abri de tout, de la tempête, de la nuit, des combats oubliés, à l'abri de tout excepté de l'instant et d'eux-mêmes. Un peu plus tard, tandis qu'ils marchaient parmi la splendeur fracassée du monolithe de cristal, elle le toucha 1 fois de sa férule d'or et 1 fois de son tor bleu. Il vit, dans un fragment de panneau de cristal, son reflet devenir le contour vif-argent d'un homme, parfait jusqu'au moindre détail de son anatomie masculine et de la ligne des côtes sous son torse mince.
« Et maintenant ?»
demanda Kassad dans un médium qui n'était ni le son ni de la télépathie.
« Le seigneur de la douleur attend. »
« Tu es sa servante ?»«
Certainement pas. Je suis sa némésis et sa compagne, sa gardienne. »«
Tu es venue de l'avenir avec lui ?»«
Non. » j'ai été prise dans mon époque pour remonter le temps avec lui.
Alors, qui étais-tu avant que...
La question fut interrompue par la soudaine apparition, non, se dit-il, la soudaine présence du Gritch. La créature était telle qu'il se la rappelait depuis leur dernière rencontre, des années auparavant. Cassad remarqua les reflets de chrome et de vif argent qui évoquaient ceux de leur combinaison, mais il savait intuitivement qu'il n'y avait pas de la chair et des os sous cette carapace. Elle faisait au moins 3 mètres de haut. Ses 4 bras s'articulaient de manière naturelle sur son torse élégant, et tout le corps était hérissé d'épines, de piques, d'arêtes et de tranchants aiguisés comme des lames de rasoir. Les yeux à 1000 facettes brûlaient d'une lueur qui aurait pu être celle d'un laser à rubis. La longue mâchoire et les rangées de dents semblaient sortir directement d'un cauchemar. Cassad était prêt. Si la combinaison à énergie lui donnait la même force et la même mobilité qu'à Moneta, il mourrait au moins après un combat honorable. Mais il n'y eut pas assez de temps pour cela. À un moment, le seigneur de la douleur se tenait à 5 mètres de lui sur le sol noir, et au moment suivant, il était devant lui, enserrant le haut de son bras dans un étau de lames d'acier qui transperçait le champ d'énergie de la combinaison et faisait couler le sang de son biceps. Il se raidit, prêt à recevoir le coup et décidé à le rendre, même si cela signifiait empaler son poing sur les épines et les lames de rasoir. Le Gritch leva le bras droit, et le cadre d'une porte rectangulaire de 4 mètres de haut apparut. Cela ressemblait tout à fait à une porte d'Istrance, à l'exception de la lueur mauve qui remplissait le monolithe d'une clarté épaisse, presque tangible. Moneta lui fit un signe de tête et passa la première. Le Gritch fit un pas en avant, accentuant légèrement la pression de ses lames sur le bras de Cassad. Celui-ci avait envie de se débattre pour se dégager, mais il se rendit compte que la curiosité était encore plus forte chez lui que le désir de mourir. Et il franchit le cadre avec le Gritch.